merci à vous trois. Vous avez parfaitement déjà ouvert vaste débat, d'une part, mais dans des conditions, vous avez respecté les règles du séminaire. Ça, c'est très bien. Alors, je vais déjà poser quelques questions qui en fait s'adressent à tout le monde. Et puis, je passerai la parole à Muriel Chemla qui, je pense, poser des questions un peu plus pointues. Voilà, déjà, je remarquais, comme vous avez remarqué sans doute aussi, que la même interrogation traverse les exposés de nos deux collègues femmes. Hein, on va dire femmes, hein. L'interrogation qui traverse, comme ça, c'est l'incidence du patou dans le transfert et par conséquent, c'est déjà une première question, c'est une conséquence, dans la fin de l'analyse. Alors, il y a quatre points qui nous sont venus comme ça. Premier point, le patou n'est pas réservé, c'est pas l'apanage des individus reconnus légalement femmes, ça c'est pas ce coup. Et donc, c'est un peu difficile de faire ça. Passage comme ça, pas tout. Deuxième point, la part d'écryptage, disons, je dis ça comme ça, pour faire simple, des signifiants, et même du dire, ça c'est une question dans la question, relève du registre phallique chez l'analysant, chez l'analysante, et aussi chez l'analyste. Sauf quand il interprète. D'ailleurs, Jean-Michel Arzur a cité encore « Toute femme dans l'analyse est un homme ». C'est une citation de son corps. Enfin, la citation, c'est pas exactement ça. Est-ce qu'il existe des analysantes? Troisième question. Le non-interprète...
Des analysantes, c'est ça?
Est-ce qu'il existe des analysantes? Deux points. Troisième question, le non interprétable, le reste, l'excès d'ouïssance, vous avez employé plusieurs termes, hein, comme ça, est-il du registre du patou? Question. Ce serait alors rapprocher, même assimiler patou et réel? Question. Quatrième, ça s'arrête à présent. Tout discours constitué, c'est une citation de Lacan, alors je ne sais pas. Tout discours constitué implique l'exclusion de l'autre, grand A, du sexe, c'est-à-dire la femme. Alors le discours analytique, fait-il ou peut-il faire exception? Je dois dire qu'à vous entendre, je n'ai pas eu l'impression que non, il ne faisait pas exception. Ça, c'est Lacan qui le dit. Tout discours constitué implique une exclusion de l'autre. Grand A du sexe. L'autre du sexe, c'est la femme. Le discours analytique fait-il ou peut-il faire exception? Question. Exception.
Peut-il faire exception?
Ouais. C'est-à-dire, c'est une question. Tout ça, c'est une question. Alors, j'avais en plus une question prime, plus adressée à Jean-Michel et à Carmen, puisque tous les deux nous en avaient parlé. L'essence. Alors, évidemment, s'il y a une citation de Lacan, hein, d'accord, bon, on ne peut pas lui demander puisqu'il n'est pas là, mais c'est quoi l'essence d'une femme? Pas tout est-il essentiel? Je dois dire que la question de l'essence, moi, ça me trouble un peu. Je ne parle pas de l'essence, j'allais dire. Alors, est-ce que... Je ne vois même pas ce que vous allez faire. Obstacle à la différence. Ah oui, est-ce que c'est un obstacle, parce que vous en avez parlé un peu comme ça, à la différence absolue? Est-ce que l'essence, qui serait le patou, ferait obstacle à la différence absolue? Un d'entre vous a posé la question, et en même temps, Jean-Michel, vous avez associé femme et différence absolue. Donc là, il y a une chose qui est sur le frère. Voilà, voilà. Et alors, il y avait une remarque associative. J'avais juste une petite remarque comme ça, associative, en lisant le texte d'Agnès. Remarque qui s'adresse à Marc, qui n'est pas là, qui s'excuse de ne pas être là. On lui répétera. Pas de problème. Pas de problème. Donc, on raconte, on m'a raconté. Et si ce n'est pas vrai, c'est pas grave, parce que ça pourrait être vrai, donc ça n'a aucune importance si c'est vrai ou pas, que Lacan, recevant un homme qui lui demande de faire une analyse, et qui lui déclare d'emblée, je viens vous voir parce que vous êtes un homme, ça c'est le début de l'intervention d'Agnès Maillard, qui a rappelé cette anecdote. À quoi Lacan aurait répondu, qu'est-ce qui vous fait croire ça?
C'est Didier Tchia qui racontait ça à propos d'une femme en analyse chez Lacan. Il n'y a pas de raison de ne pas le croire d'ailleurs.
Il racontait à propos de lui-même, non, recevant
lui-même
une femme.
Comme analyste.
Et c'était très drôle avec parce que Didier Tchia, il avait la petite barbiche phallique là. Et il lui dit, mais pourquoi vous pensez que je suis un homme?
Qu'est-ce qui vous fait croire
que je suis un homme? Il aimait beaucoup raconter ça.
Peu importe qui l'a dit.
Alors d'abord, je voulais remercier les trois intervenants. Alors j'ai d'abord adressé à Carmine Lafuente, parce que moi j'ai une petite difficulté. Alors dans le début de votre texte, vous écrivez « Les hommes aiment selon leur manière de jouir ». Et c'est une phrase qui m'a un peu étonnée. Je me suis demandé si c'était une condensation de quelque chose et je voulais savoir si vous pouvez m'expliquer parce que pour moi, jouissance.
Les hommes et les femmes.
Oui, les hommes et les femmes. Mais nous, c'est aime selon leur manière de jouir qui m'a interrogée parce que la jouissance pour moi ne fait pas lien et alors que l'amour fait lien. Donc ça m'a interrogée. La deuxième question, c'est lorsque vous parlez des deux versions de la passe. En disant qu'on s'attendrait en fait à deux versions justement et qu'en fait il y a une vision du caractère sexuel de l'analysant. Alors je me suis rappelé que dans le séminaire de l'an dernier, Claudette Soler rapporte qu'il lui a été rapporté par une collègue. Et ça me semble intéressant. Il y a un témoignage d'une femme passante, une douleur originale résonnait, et plus que dans les témoignages d'hommes. Et du coup, au-delà de la question de la privation réelle côté femme, je me suis demandé si ça pouvait avoir affaire avec cette surmoitié que vous évoquez à la fin de votre exposé. Ma troisième question, elle concerne en fait les trois intervenants. Les trois intervenants ont finalement parlé de la jouissance patoute en fin d'analyse, et comme étant une question qui peut se poser d'une différence en fin d'analyse dans le transfert. Et moi, je me suis demandé si on ne pouvait pas dire aussi que cette jouissance patoute pouvait impacter parfois d'emblée aussi le choix de l'analyste. J'ai pensé à certaines analysantes qui veulent absolument rencontrer une femme, et en me demandant si parfois il n'y avait pas pour certaines l'illusion que seule une femme répondrait à la question de ce qu'elles ont rencontré de cette autre jouissance énigmatique maternelle. Et on peut le décliner côté homme qui refuserait absolument de voir une femme aussi. Dans cette question-là. Bon, ça, c'est une question que je pose aux trois, puisque les trois, finalement, parlent uniquement de la fin de l'analyse. Ensuite, pour Agnès Maiton, alors il y a deux questions plus liées au texte. Au début, vous soulignez l'intérêt plus marqué des femmes pour la parole et pour les signes de reconnaissance attendus de l'autre, et vous questionnez si ce serait peut-être en lien avec la jouissance patoute. Et bon, je voulais savoir comment vous faites ce lien, parce que pour moi, c'était plutôt en rapport avec le registre phallique, puisqu'il s'agit d'une quête de signifiant chez l'autre. Et puis, vous avez une très jolie phrase où vous dites que les femmes sont réputées aimer l'amour. Et cette phrase est comme ça énoncée, et je me suis demandé comment, très très jeune, comment la justifier, et donc je voulais savoir si vous seriez d'accord pour dire que la femme, en tout cas la patoute, est moins dupe de l'acte sexuel, et donc plus encline à aller du côté de l'amour, comme ce qui supplait au non-rapport. Le troisième texte, pour Jean-Michel Arzur, j'ai qu'une question, c'est en fait, sur la fin du texte, vous aussi, vous placez la différence homme-femme comme, en tout cas, vous la travaillez comme en fin d'analyse. Et votre phrase, c'est de dire la différence sexuelle se réalise dans et par le symptôme qui sépare. Et on en reste là, mais je me suis demandé ce que vous voulez dire en fait.
J'ai mis un point d'interrogation.
Oui, mais il y a dans et par. Vous n'avez pas mis un seul. Il y a le dans, il y a le par, et je me suis demandé pourquoi ils étaient là, ce que ça posait comme question d'une façon un peu plus précise. Voilà.
Est-ce qu'avant de ne pas bien répondre aux questions posées, je peux faire juste une remarque. Pour dire que quand j'ai été invitée, disons, à participer à ce séminaire, j'ai d'abord été un peu désemparée, ce que j'ai dit à Nicolas. C'est, qu'est-ce que c'est que ce sujet? Qu'est-ce que c'est que ce thème? Bon, peut-être vous allez sourire de ma naïveté, hein, mais j'avais vaguement comme ça l'idée que on va demander une analyse à un psychanalyste parce qu'on a une peur qui va se transformer en un symptôme à partir du moment où on donne du sens à quelque chose dont on pense que ça parle, etc. Et qu'il y en a un qui peut vous permettre d'accéder à savoir ce que ça veut dire. Mais je me disais que les gens ne venaient pas, en tout cas jusqu'à présent, peut-être que c'est vrai maintenant, mais parce qu'ils sont hommes ou femmes, ou en tout cas pas d'emblée. C'est plutôt un résultat du travail analytique que de se poser la question. De savoir comment on se positionne dans cette logique-là, plutôt que d'emblée. Donc ça m'aurait un peu interpellée, parce que du coup, je me disais qu'à l'entrée, je sais pas, c'était peut-être moins simple à aborder de manière directe et manifeste. Voilà, c'était juste pour commencer.
Alors, je vais commencer à...
Déjà, moi, j'ai eu un peu la même impression que Agnès aussi par rapport à la thématique, nous demandant justement par quel biais l'attraper. Alors, je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais peut-être la question est-ce que le discours analytique fait exception par rapport à ce que Lacan veut dire, des discours constitués qui excluent la dimension de l'autre. Je dois dire que c'est vraiment une question que je me suis posée aussi, qui était en filigrane de mes lectures. Mais j'ai quand même dans l'idée que oui, dans la mesure où ce qui dit des discours constitués, enfin, il parle aussi des discours établis. Ce sont des discours qui norment aussi la plupart du temps la jouissance, et donc le discours analytique ne se présente pas comme ça. Donc j'aurais tendance à dire oui, il fait exception. J'aurais tendance à dire ça aussi par rapport à ce que j'ai lu. Je n'avais pas fait attention à cette question. Alors, je me suis peut-être attardé un peu à tort, je ne sais rien, mais sur la question du destin nouveau des analystes. Et la façon dont il dit que les analystes existent finalement au discours précédent, avec cette idée quand même que la réponse de l'analyste, en tout cas à cette demande des analysants, de comprendre, même de savoir, elle répond pas. Il y a un écart quand même avec cette satisfaction, cette demande, soit de savoir aussi. Pour ça. Alors, le badic n'est pas l'apanage des femmes, ok, d'accord. La question de la pâte tout en fin d'analyse, moi, j'ai pas l'impression d'avoir, justement, je me suis bien gardé d'aller sur ce terrain-là. Mais c'est vrai que je termine en... sur la question de ce qui n'est pas tout pris dans le vin. Ce qui n'est pas tout pris dans le vin. Mais du coup, je suis retombé sur la question posée aussi par Martine, de la différence dans ce cas-là du patou et du réel. Voilà. Ah oui, alors l'histoire de l'essence. Alors, les guillemets a été après l'essence pour moi, donc c'est moi qui ai mis l'essence. Je ne sais pas s'il a dit ça. Ouais, l'essence, ouais. Et en fait, là, ça vient d'un travail qu'on a installé sur Rennes, on a un séminaire collectif, puis on a des idées un peu saugrenues des fois, donc là, on est parti sur parler de l'homme, justement, et ce qui fait l'homme. Et donc, on a fait un groupe de travail il n'y a pas très longtemps, et on avait décidé, avec quelques collègues, nous, de s'occuper de la parole, de l'homme et de la parole. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu relire un peu les séminaires 17 et 18, pour voir ce que disait aussi Lacan, voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier, et je trouvais que ça allait bien dans le sens du séminaire, en tout cas de la soirée du séminaire qui était proposée aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu un casse-tête d'arriver à sortir des semblants, à sortir effectivement du registre du discours, et on voit bien quand même que dans ce moment du séminaire, il arrive à la question de la logique, et donc avec... au-delà du quelque homme, le tout homme, donc l'essence non, mais il montre quand même qu'effectivement, enfin, j'ai dit homme comme femme, mais que du fait de passer à l'articulation de la parole, il y a quelque chose qui se perd, et moi j'ai dans l'idée quand même que ça vient justement constituer quelque chose de l'ordre du symptôme, tout au long de la cure et à la fin de l'analyse. Pour ça, le dent il part, ben voilà, par rapport à ça, c'est... Alors là, c'est peut-être plus mon expérience personnelle, je ne sais pas si c'est généralisable, mais cette idée-là quand même que ce qui se constitue comme reste, c'est aussi quelque chose qui sépare, et donc, effectivement, il faut en passer par la constitution, au fil du temps de quelque chose qu'on va appeler symptôme, mais que c'est effectivement dans cette identification de symptôme qu'il y a quelque chose qui peut permettre la fin de l'analyse, la séparation, est-ce que c'est généralisable, je ne sais pas, mais un aperçu effectivement sur la différence des sens. Voilà un petit peu ce que je peux dire comme ça.
Moi, je m'excuse parce que je n'ai pas pu comprendre toutes les questions. J'aurais bien voulu avoir les questions écrites pour aller lire, mais je savais de mon mieux. Alors, par exemple, pour commencer, quelques questions que je peux répondre, que j'ai compris. Le patou n'est pas réservé aux femmes, oui, c'est vrai, il y a du patou partout, mais Lacan, je me dirais si vous êtes d'accord. Lacan, dans l'étourdi, dit oui, mais le patou extrait toute sa puissance logique de la jouissance féminine. Non. Notre question. Les réels, le patou et les réels sont assimilables? Je pense que non. Parce que, à la fin de l'analyse, il y a la jouissance opaque du symptôme liée à la lettre, que c'est une jouissance qui s'écrit. Mais la jouissance, pas toute, est contingente, ne s'écrit pas. Alors, elles sont différentes. Ce n'est pas la même chose. Oui? Bon, tout discours institué La relation entre l'amour et la jouissance. Je pense que je vais répondre bien si je pense à la pas toute, parce que l'importance que les femmes autorquent à l'amour ne vient pas simplement de la part de l'exception de l'hystérique, mais aussi de la pas toute, parce que l'amour détermine la femme. Elle cherche l'amour. C'est une façon d'être nommée. Et alors, ici, on voit très clairement la relation entre l'amour et la puissance. Aussi, si on passe par exemple au mystique, à la relation qu'elles ont à Dieu. Dieu est, on peut le loger dans le S des Abarets, par exemple. À l'essence de la femme n'est pas la castration. C'est vrai, c'est une citation de Lacan dans Soupir. C'est une plainte qu'il adresse aux analystes qui sont complètement fixés dans le père, dans le phallique, etc., etc., etc. Et il finit en disant, si vous suivez ce chemin, alors vous ne voyez pas que le sens d'une femme n'est pas la castration. Je pense que le séminaire Moupir, c'est des années 70 à peu près, et peut-être il s'adresse, c'est un séminaire intérieur à un corps où il s'adressait aux femmes du mouvement de libération féminine qui essayaient de faire comme une nature antiphallique de la femme. Et peut-être que ça peut avoir relation avec ce qu'il dit après au séminaire encore, quand il s'adresse aux femmes du mouvement de libération féminine, pour dire que l'essence de la femme n'est pas la castration. L'essence, on ne sait pas où est l'essence de la femme. Je pense que l'essence de la femme, on peut dire, suivant le séminaire Roupier, est entre centre et absence, mais n'est pas la castration.
On a aussi des références sur l'absence d'essence, plus souvent que des références à l'essence, il me semble. On peut lire plus fréquemment chez Lacan, on ne définit ni l'essence des hommes, ni celle des femmes. Il me semble que sinon, oui, je suis assez d'accord avec l'idée que le décryptage, ça reste dans le registre phallique, parce que c'est ce que tu disais. Et en fait, ma question, c'est est-ce que les analyses vont vraiment réellement, est-ce qu'on a des témoignages de ce que les analyses vont vraiment beaucoup au-delà de cela, de l'analyse en termes en termes phalliques, et du fait de toucher à la limite de ce qui peut être dit, de ce qui peut être du langage, aussi bien du langage du sens que du langage qui fixe quelques éléments de jouissance. Je ne sais pas si les analyses, on recueille beaucoup de choses au-delà. Je crois que on peut retenir des expériences analytiques, des conclusions sur le fait de la rencontre avec vraiment ce qu'il en est de l'altérité, cet effet de la. Il y a de l'autre en tant que cette altérité, mais je ne sais pas aujourd'hui si j'ai bien entendu souvent qu'il en soit dit beaucoup. Maintenant, ça ne peut peut-être précisément pas être dit, puisqu'on est sur la question d'une jouissance qui ne se dit pas, on est d'accord. Mais néanmoins, dans ce registre de logique, on devrait quand même pouvoir avancer un petit peu plus quand même sur la question des effets de cette logique sur l'ensemble des deux côtés, côté tout fatigué, côté pas tout fatigué.
Je voudrais ajouter à ce que Agnès vient de dire, parce que c'est que mon exposé essaye de dire, c'est que si bien c'est vrai que on peut rien dire de la jouissance féminine, mais peut-être ce que Lacan reproche aux femmes analystes, mais peut-être maintenant on peut être un peu plus disposé à écouter quelque chose de réel, irréductible. C'est ce que je propose, et c'est ce que j'ai lu dans quelques textes de Collectionneur, par exemple. Et par exemple, on peut écouter quelque chose de la clinique, de la patou, pourquoi pas. Par exemple, le ravage de la relation avec l'homme, le ravage avec la femme, la surmoitié, par exemple, le safé, qui nous mène peut-être à cette autre terre. Aussi, les inférences du dire auquel fait référence la collectionnée, par exemple, dans son texte, elle parle de la négativité annihilante, et après, des années plus tard, elle parle de l'opposition, l'indétermination, par exemple. Il y a un témoignage d'une espagnole qui parle très, très clairement de l'indétermination dans sa phase. Et je pense que les conséquences peut-être pour l'analyse n'ont pas été encore saisies, et qu'on peut peut-être aller un peu plus vers cette option, je sais pas.
Alors merci à vous trois, hein, d'avoir un peu avancé. Il y a certainement des questions dans la salle.
Cette affaire.
Alors, il faut que tu parles très fort, Jean-Jacques, parce qu'on n'a pas de monde assez.
Mon Dieu, c'est pas un gros problème. Mais je vais bien parler dans le micro.
Si, parce que bon, c'est vrai que toi, tu as une voix qui porte. Mais...
Voilà. Oui. La question du transfert et de la différence des sexes, je reviendrai après sur. C'est d'abord, elle se pose dans le terme de je veux un analyste homme ou je veux un analyste femme, qu'on soit femme ou homme d'ailleurs. Bon. Et donc, ça, c'est une question qui se pose au départ. Alors. C'est vrai qu'on la balaye comme ça. On a peut-être raison de le faire, d'ailleurs. Mais enfin, elle s'attrape à partir de là. Là, ce que j'ai trouvé intéressant, enfin bon, c'est d'envisager la question à propos de la fin, c'est-à-dire du transfert à la fin. Alors, moi, je dois dire que sur l'affaire du patou, moi, je serais plus prudent, parce que quand même, lorsqu'il est question du patou et même de la fin de l'analyse, la question du patou, c'est la question du patou. Telle qu'elle se pose, mettons conservons la différence des sexes telle qu'elle se présente. Donc, le patou tel qu'il se présente pour les femmes, c'est-à-dire, bon, éventuellement, et puis aussi pour les hommes qui, comme on le sait, ont affaire aux femmes. Bon. Mais le patou dont il est question là, disons, se répartit les sexes comme ça. Alors, quel effet ça peut avoir oui, je crois que l'essence de la castration, l'essence féminine, c'est pas la castration. Ça, je crois que vous avez raison. Il s'agit de critiquer un abus du terme de castration. C'est-à-dire que on parle de castration un peu n'importe comment, et donc dire l'essence féminine, ça n'est pas la castration, c'est parce qu'on réduit la question féminine à les femmes sont castrées, les hommes sont pas castrés. Je veux dire, ça donne ça. Or, c'est pas la conception de l'accord. C'est pas l'idée qui se fait de la différence. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez facile, je dirais. Mais après, sur la fonction du patou dans la cure, alors du patou, si on le place comme la jouissance qui n'est pas celle, alors on dit du S de grand tabaret, là aussi ça reste très mystérieux, disons, c'est-à-dire sur comment ça se présentifie dans l'analyse. C'est ça un petit peu la question. Parce que, bon, voilà, enfin je ne veux pas prendre la parole.
La question de la différence des sexes au début ou à la fin, le choix du sexe de l'analyste, le choix de l'analyste selon son sexe, il me semble en effet que ça s'oppose au début, mais ce qui est en jeu à ce moment-là, ce n'est pas du tout la question de la jouissance, mais plutôt une question d'identification. Donc la façon dont ça s'oppose au début à la fin n'est pas la même, disons, hein, si ça s'oppose à la fin. Je voulais surtout poser une question à Carmen Lafuente. J'ai été particulièrement intéressée par ce que vous avez développé autour du surmoi, de la surmoitié. Et alors, si j'ai bien suivi, c'est pas du tout sûr que j'ai bien suivi, vous proposez de distinguer selon les sexes ce qu'il en est de la jouissance du surmoi. Donc j'ai voulu que vous précisiez un petit peu ce point. Merci.
D'après ce que j'ai pu lire à l'étude sur la surmoitié, Lacan parle. Il parle d'une surmoitié féminine dans l'étude. Et la différence, et la différence de la conscience universelle qui est liée à la loi. C'est étonnant parce que vraiment, la conscience universelle, c'est-à-dire le surmoi freudien, n'est pas liée à la loi. Il a même un Freud et aussi un vraiment une partie qui est pousse à la jouissance, mais dans ce texte il différencie, je ne sais pas pourquoi, entre la conscience universelle qui répond à la loi et le surmoi féminin qui ne répond pas à la loi. C'est pour ça que je différencie et que je pense que dans cette interprétation que j'ai présentée ici, on aurait pu même l'interprétation faite aurait pu être, j'aurais pu écouter fait de la
comme une jouissance. D'accord. Et ça pas être, non, c'était différent. C'était un as qui m'a voulu verser. Pour moi, c'est comme ça. J'écoutais as. J'aurais pu écouter ou rien écouter, mais j'écoutais as. Et pour moi, ça a été un bouleversement qui a eu des effets dans ma vie. Et c'est pour ça que je pense que c'est parce qu'on a traversé quelque chose de la patoute. Je ne sais pas si c'est possible de dire ça, c'est ce que je pense. Non, à partir de cet as qui m'a permis de prendre une distance avec une figure maternelle, etc. Et c'est pour ça que je différencie ces deux possibilités. La conscience universelle liée au surmoi freudien, la surmoitié qui est liée à une voix féminine et qui est un pouce et qui pousse à la jouissance, mais pas liée à la loi.
Alors, j'embraye sur ce point-là dont je n'avais pas l'intention de parler. La phrase de Lacan est très précise. Il dit, c'est la surmoitié qui ne se surmoite pas si facilement que la conscience universelle. Le terme de loi n'y est pas.
Non.
La conscience, le surmoi de la conscience universelle, c'est le surmoi freudien.
Oui.
Et ce n'est pas celui de la loi, c'est un pouce à la jouissance phallique.
En Freud aussi.
Oui, chez Freud aussi. Puisque chez Freud, le surmoi, il dit fais des efforts, tiens-toi bien, continue, encore un effort, il dit. Le surmoi, il dit encore un effort. Ça, c'est du surmoi freudien.
Il dit fais le lit.
Il dit fais le lit, d'accord. Je ne pense pas qu'il dit as. Mais enfin, il dit fais le lit. Bon. Alors, quand Lacan dit.
Est lié à la loi.
Quand. Mais il ne dit pas, Lacan ne dit pas dans cette
ne
phrase.
Ne dit pas la loi. Ne dit pas la loi.
C'est
on peut le déduire.
Oui. Ah, moi, je ne le déduis pas personnellement. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne le déduis pas. Ça n'est pas lié à la loi. C'est lié au statut de la jouissance phallique, qui est une jouissance castrée, et donc c'est un surmoi impossible à satisfaire, le surmoi de la conscience universelle. Plus on en fait, plus il en demande. Ça, c'est l'expérience la plus banale qui soit. Alors, quand il dit c'est la surmoitié, ça veut déjà dire qu'elle-même, elle fonctionne comme surmoi, comme surmoi, et qu'elle ne se surmoite pas dans le phallique complètement. C'est ça que ça dit. Ça ne dit pas qu'elle a un surmoi qui est particulier. Ça, c'est ton hypothèse, Carmel, hein, je crois. Mais ça n'est pas dans la phrase de l'amour. Moi, je tiens toujours à bien distinguer ce que je peux lire dans le texte et ce que j'ajoute. Quel est un surmoi particulier? C'est une thèse qui court la psychanalyse à Lacan. Dans Mélanie Klein, il y a un surmoi, il y a un surmoi qui n'est pas le surmoi freudien chez les femmes. Je ne crois pas que ce soit l'idée de Lacan. Franchement, je ne le crois pas, c'est le contraire. C'est le contraire parce que la jouissance autre, ça ne pousse pas, ça ne dit pas encore un effort. Ça, ce serait des développements marginaux. Enfin, je voulais dire quelque chose quand même sur les trois exposés groupés que finalement je trouve quelque chose de très convergent parce qu'il me semble que les trois s'affrontent au même dilemme. Le thème qui était proposé, le transfert selon la différence des sexes, je m'étais aussi posé la question, tiens, pourquoi ? Finalement, ça se justifie bien, parce que le transfert, c'est une position des sujets, de chaque sujet, à l'endroit du savoir. Si on prend cette définition qui concentre toutes les définitions de Lacan sur le transfert, hein. Une position du sujet à l'endroit du savoir et une position qui est une position de demande. Demande de réponse. Et l'amour surgit dans l'espoir de la réponse de celui qui a chance de répondre, comme vous le citiez. Alors, il est assez logique, du coup, que la position différentielle des sujets à l'endroit du sexe et de la jouissance marque, colore, je dirais, donne un style différentiel à la demande adressée au savoir. Parce que ce n'est pas le rapport à la même jouissance, elle ne pose pas les mêmes questions aux hommes, la phallique et l'autre, et donc ce n'est pas excessif de penser que ça colore. Je ne dis pas que ça transforme, je ne dis pas que ça fait des transferts différents, mais ça donne quand même un style différent à la demande transférentielle, qui me paraît très sensible. Enfin, en tant qu'analyste, moi, ça me paraît très sensible. Ça n'a pas le même style. C'est la même chose et ça n'a pas le même style. Alors, jusque-là, pas de problème. Le problème commence après. Le dilemme, et il vient de Lacan, surgit en effet, pas dans le décours de l'analyse, parce que dans le décours de l'analyse, les hommes et les femmes font la même chose. Ils s'occupent, ils parlent, ils produisent du signifiant. Bon, en gros, on est dans le registre du phallique, avec ce qu'il applique de l'objet qui manque. Et c'est pour tous les analysants. Et évidemment, le dilemme apparaît au moment de la passe dite clinique. C'est-à-dire quand l'analysant, homme ou femme, est obligé de s'affronter à la faille, ce que Lacan appelle la faille du sujet supposé savoir. C'est-à-dire à une réponse qui ne peut pas être donnée en termes de signifiant. Alors, elle ne peut pas être donnée en termes de signifiant et d'objet. Ah, barré. Et c'est pour tous les analysants, quel que soit leur sexe. Je ne dis pas S de grand appareil, je dis A barré. Bon, alors, est-ce que avec ça, le discours analytique nous permet de mettre en valeur l'autre du sexe, hein, la patoute, etc. Je crois que Lacan a répondu non. Qu'il dit, comme vous l'aviez cité, que tout discours forclôt l'autre. Tout discours, l'analytique inclus, et il le dit. Il n'y a pas d'exception là-dessus. Le discours analytique, comme tous les discours, il opère dans le registre du signifiant objet A, et la seule chose qu'il produit, c'est le signifiant phallique. Alors, dès lors, où va-t-on trouver la patoute dans tout ça? Je note d'ailleurs que dans le texte où Lacan dit celui qui a chance de répondre, qui est l'introduction à l'édition allemande des écrits, vous vous êtes gardé de donner la réponse, hein, parce que Lacan, juste après avoir parlé de celui qui a chance de répondre, dit, ben, aujourd'hui, c'est moi qui dois donner la réponse. Et il la donne. Elle est textuelle. C'est la fin du texte. Et que dit la fin du texte? La seule chose qu'écrit le discours analytique, c'est le phallus. Et par là, ce qui se démontre, c'est qu'il n'y a pas de rapport. Ça se démontre comme ça. C'est qu'il n'y a pas de rapport. Et comme il le dit dans la phrase que vous avez citée, il n'y a pas de couple sexuel. Ça revient exactement à dire la même chose. Alors, ce qui est sensible dans vos trois exposés, qui m'étaient sensibles, en tout cas, parce que j'ai fait la même chose, en fait, exactement, aux dernières journées, je crois, c'est qu'on a une sorte de vœu, une sorte de tentation. Une tentation, on voudrait, malgré tous les textes assurés sur lesquels nous sommes d'accord, je crois, on voudrait la trouver. On voudrait se dire qu'elle émerge quand même à la fin. C'est pas possible qu'elle reste dans l'impossible à dire. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle ne peut pas émerger ni par le signifiant, ni par l'objet A, ni par la lettre. Alors, comment va-t-elle émerger? Il y aurait une seule réponse, celle que j'avais évoquée pour ma part, mais je dois dire que ça va pas, c'est pas très satisfaisant. Et on ne peut, disons, à la limite, si on veut la pister, parce que c'est ça, de ça qu'il s'agissait un peu dans les exposés, si on veut la pister, la seule place où on peut la trouver, c'est à la place où elle est dans la structure, et que Lacan dit, c'est une place de vide. Une place de vide. Une place de vide, ça ne parle pas. Hein. Il n'en sort rien, ça ne dit rien, ça fait des trous, c'est tout. Alors, je me disais que finalement, c'est pour ça que j'ai parlé d'une forme de négativité spéciale. Parce que quand Lacan dit, par exemple, dans l'étourdi, il parle des discours qui tiennent en place, c'est le régime phallique, vous savez, la danse tient, il y a les hommes qui ont ce qu'il faut, les femmes, voilà. Il dit, quand des femmes viennent dire qu'elles ne s'y reconnaissent pas, voilà ce qu'elles peuvent dire. On ne s'y reconnaît pas, ça ne dit pas dans quoi elles se reconnaîtraient. Et donc ça, c'est purement une sorte de façon de dire face au phallique, ça n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas ça. Autre chose, s'il vous plaît. C'est quand même pas une émergence.
Non, c'est pas.
Je crois qu'il faut arrêter de la chercher, là.
Oui, dans le transfert, c'est...
Oui,
on ne saisit pas bien.
Alors, peut-être qu'on l'est trop... Chez les mystiques, c'est autre chose. Chez lui, les mystiques, c'est autre chose. On trouve quelque chose. Dans le transfert, dans le travail de transfert, dans la faille du savoir, bon, on ne la trouve pas. Non. Voilà mon idée, en tout cas.
Oui, parce que juste un mot. Non, c'est-à-dire, si la différence homme-femme se subsume dans la différence donnée comme hystérie-obsession. Bon.
Mais non. Ça, il ne faut pas l'accepter.
Bon.
Je te dis mon avis.
Bon. Et que, je veux dire, avec cette idée-là, on imagine ou on pense, donc, mais au fait, dans le transfert et la fin de la cure, quand serait-il ? Alors là, je crois que Lacan est très clair sur la différence, c'est-à-dire, en fait, il fait une dissymétrie entre hystérie et obsession. Et elle intervient dans votre débat parce qu'il fait une différence dans la mesure où l'hystérique, c'est un discours et l'obsession, c'est une névrose. Donc, alors, évidemment, on peut partir comme ça pour essayer de voir si cette distribution... entraîne des différences. Et là, on peut après reprendre homme-femme.
Sauf que c'est un discours qui forclôt l'autre tout aussi bien que les autres discours. Le discours hystérique, comme celui du maître, comme celui de l'université, comme celui de l'analyste, forclôt l'autre. C'est pour ça que Lacan dit elle est hors sexe. D'ailleurs, textuelle. Hein? Elle est hors sexe parce que plus on la prend côté discours... Plus on prend l'hystérie côté discours, et moins on a de chance de trouver la patoute. Ça me paraît. Mais je voudrais quand même ajouter quelque chose à propos du patou. Parce que le patou, c'est une réalité linguistique. Le patou, c'est une réalité qui vient du lieu du langage. et il y a ce paragraphe très important du séminaire encore que j'ai commenté récemment. Récemment, Lacan dit « L'être sexué de ces femmes, pas toutes, ne vient pas du corps. Il vient d'une nécessité logique inscrite dans le lieu du langage. » Le langage qui est hors corps, qui est hors des corps qui en sont agités. Donc le patou, c'est ce qui s'écrit à barré. Alors ça a des noms divers, ça a le nom de la vérité, par exemple. La vérité médite est la structure du patou, c'est exactement ça. Et c'est donc cette structure qui fait que manque le terme, manque le point de capiton, manque le terme qui ferait limite à la série, comme pour les nombres entiers. Donc le patou, c'est un réel logique, c'est pas le réel des femmes. Alors, les femmes, le rapport de leur haute jouissance au patou, Lacan le situe très précisément dans les tournées Carmen, il dit leur jouissance autre habite le patou, loge dans le patou. Mais ce n'est pas le patou qui fait leur jouissance autre. Leur jouissance autre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit il n'y a pas que les femmes qui sont pas toutes. Bien sûr, tout ce qui entre dans le travail du langage finit par rencontrer du patou. C'est très important quand même de garder ça en tête. Et il faut bien dire aussi que dans l'analyse, c'est pour ça que c'est assez inaccessible dans le travail du transfert. C'est que quand même dans le travail du transfert, on n'est pas au lit. On est sur le divan. Hein? Donc, la jouissance que l'on attrape, c'est la jouissance qui est en forme signifiante. Et l'autre jouissance, c'est pas quand même celle qui habite le travail associatif de la brassine. Donc, même elle, on peut courir après. Hein?
Alors, est-ce que d'autres questions, certainement ? Je m'excuse d'être insistante, mais savoir que cette place vide existe, je pense que ça marque une différence.
Ah ben oui, c'est Lacan qui a introduit cette différence. Dans la psychanalyse.
Le savoir et peut-être même, c'est ce que je proposais, que ça marque un petit peu la clinique parfois de la patoute, par exemple. Parce qu'on ne peut pas, si on pense au ravage, femme, homme, au ravage. Les femmes avec leur mère, par exemple. Si on sait que cette place vide existe,
on va lire autrement.
Oui.
On va lire autrement. Peut-être. Autrement. Oui, non, mais ça
marque une différence.
Oui.
Oui.
Oui, Carmen, je voulais te poser une question. Tu évoquais dans le récit que tu as fait de ton parcours d'analyse, un moment précis où tu dis qu'il y a eu pour toi l'accès à un savoir féminin. C'est comme ça que tu as dit. Qu'est-ce que tu appelles le savoir féminin ?
Un savoir du féminin. De quelque chose de féminin. Et j'appelle ça en relation avec la surmoitié. Avec la surmoitié. Avec cette surmoitié qui, pour moi, a été différente du surmoi phallique, par exemple. La différence entre le fait et le as. Donc, on sait que cette surmoitié, moi, était lié à la figure de ma mère, par exemple, auquel j'avais jamais pensé comme ça. J'avais toujours pensé
c'est le surmoi qui était dans ma vie, venait toujours de mon père, toujours. Quand j'ai écouté ça, pour moi ça a été une surprise très importante, et c'est cette surprise qui a changé beaucoup ma position, et c'est ça que je dis, savoir, un savoir sur le féminin à partir de ça.
Et alors pourquoi, pour extrapoler à d'autres cas, pourquoi on parlerait d'un surmoi féminin? Est-ce que si le surmoi vient d'un homme, comme tu évoquais, tu pensais que ça venait de ton père, tu parlerais d'un surmoi masculin?
Par exemple, à partir de ma construction, je pensais que la conscience universelle, c'était quelque chose qui était lié à la loi et qui était lié au surmoi tel qu'on Freud le décrit, et que la sécurité était différente. Et c'était lié à la voix, une voix féminine qui poussait aussi à la jouissance. Colette dit que non, que cette voix féminine et la sécurité ne poussent pas à la jouissance. Et je pris ça de la voix de la sphinx. De la sécurité qui dit tu m'as satisfait, petit homme, etc. Et c'est vrai que c'est une voix féminine qui s'adresse à un homme, mais je pensais que cette voix féminine pouvait aussi s'adresser à une femme. Et c'est pas à partir de ça que je fais la différence.
Peut-être une des difficultés qu'on a, c'est que ce « as » t'a bouleversé. Là, on touche du doigt à quel point les mots n'ont pas la même portée pour tout le monde. Parce que ça ne bouleverse aucun d'entre nous, « as ». Donc, vraiment, et toi, pour toi, ça a été quelque chose qui a fait un impact d'affect, etc. Bien sûr, il n'y a pas de raison de mettre ça en question. Alors après, la question, c'est de théoriser ce phénomène, hein, d'essayer de se l'expliquer, de voir comment ça s'éclaire. Mais c'est ça qui me frappe. Là, on sent vraiment ce que ça veut dire. Les mots n'ont pas la même portée pour tout le monde.
Parce que ça a... Je ne sais pas si je suis un peu insistante. Parce que cette phrase, c'était une phrase dramatique. Parce que c'était la dernière phrase que j'ai écoutée de ma mère avant qu'elle ait un mort dans un accident de trafic, des minutes avant. C'est la seule phrase, la dernière phrase que j'ai écoutée. Je ne l'ai pas vue. Je l'écoutais. Carmen, fais les lits. Elle dit, oh, Carmen, fais les lits. Et quand j'ai écouté, ça.
Ça fait exploser l'impératif.
Ah oui,
c'est ça.
Mais peut-être que là, il n'est pas question de sens, mais de surtout.
C'était une syllabe, ça a fait comme ça.
Je voulais poser une question à tous les trois. J'ai pas trop entendu l'aspect contingence de l'affaire, disons, de comment dire, de la jouissance autre. Est-ce que cette affaire du patou, enfin de. Est-ce que c'est pas, je ne sais pas comment l'appeler, un phénomène, une expérience, enfin, contingente? C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui perdure nécessairement dans le temps.
Oui, c'est comme ça. C'est jouissance autre n'est pas expérimentée par toutes les femmes, et cette contingence, ça, c'est un moment.
Alors, on a encore le temps pour quelques petites questions. Une grande ou quelques petites. Elisabeth.
Toute petite question à Carmen. Merci à tous les trois pour vos exposés. C'était la première. Si tu pouvais dire un petit mot sur la première question que tu as posée, Muriel, sur cette phrase. Tu as parlé des femmes, mais il y avait une phrase.
Les hommes et les femmes aiment selon leur manière de jouer.
J'ai répondu.
Ah bon? Pour les femmes,
pour les sûres.
Mais
pour les femmes, j'ai rien dit.
C'est une thèse de Lacan, hein?
Oui. Pour les femmes, c'est clair. Pour les femmes, c'est clair, c'est la réponse.
Pour les hommes aussi.
Pour les hommes aussi. Aide-moi, s'il te plaît.
Quand Lacan dit l'amour, la forme fétichiste de l'amour, là il y a une conjonction entre l'amour et la jouissance. Non, ça c'est un peu.
C'est le plaisir.
Est-ce que ça fait question? Je ne suis pas demandé, pour moi ça ne fait pas question, mais peut-être ça fait question. Est-ce que ça fait question l'idée que le statut de la jouissance d'un sujet a une incidence sur sa façon d'aimer et d'attendre l'amour? Est-ce que ça n'est pas ça une grande évidence clinique? Ça serait un thème à reprendre si c'est pas évident. Ce serait peut-être,
il y a par exemple la façon érotomaniaque de la femme aussi.
Mais ça c'est la dialectique du désir.
La forme fétichiste et
la forme érotomaniaque, c'est la dialectique du désir. Mais bien entendu, Lacan l'a formulé à l'époque où il parlait de la dialectique du désir, mais ça va de pair. Même s'il n'a pas développé à ce moment-là, ça va quand même de pair avec le statut de la jouissance.
Oui.
Bon. Donc, nous avons une suite prévue.
Non, je ne sais pas. Enfin,
on a déjà dévoilé sur la suite. Voilà.